Et autour, je peux aller broder autour de l'œuvre, du lieu, de la ville, de l'époque, du thème aussi. Aujourd'hui, je vais broder un petit peu autour du thème, enfin, on va voir, de Thomas et des institutions religieuses et des philosophes religieux. Hein, c'est important. On va voir, je vais reprendre un peu de Giotto, que j'avais un peu bâclé l'autre fois. Et puis, on va aborder encore quelques œuvres autour du cloître vert et de la chapelle des Espagnols à Florence. Je vais vous montrer, parce que tout simplement, pour une raison toute bête, j'aime bien faire découvrir des choses que je viens de découvrir. Et je viens de découvrir d'autres cloîtres florentins que je ne connaissais pas. Et c'est intéressant aussi de voir dans quel contexte, on va dire, culturel général s'inscrivent des peintures comme celle-ci. Puisque il y a eu aussi une histoire de l'art que j'aimerais bien revoir un petit peu, c'est que l'histoire de l'art, elle est très. En fait, elle a des œillères, souvent. On a des grands repères et souvent, on ne s'en écarte pas. C'est-à-dire qu'à la Renaissance, on connaît quelques grands noms. Et en fait, c'est aussi grâce à la documentation qui s'améliore. Hein. Je vous ai dit déjà pour les manuscrits, mais y compris, par exemple, pour des fresques, pour des lieux, on a mis en ligne de plus en plus de documents qui nous révèlent des lieux souvent cachés, oubliés, et qui maintenant sont mis en ligne. Et par un effet de retour, comme ils sont connus, ils sont restaurés. C'est-à-dire qu'on a aussi un effet retour. Certains cloîtres florentins que je ne connaissais pas du tout sont en voie de restauration, parce qu'effectivement, on se rend compte qu'ils étaient aussi très intéressants. D'un coup, on découvre. Il y a aussi d'autres choses qu'on découvre grâce aux nouvelles technologies, c'est la mise en ligne de domaines privés. Presque tout ce que l'on connaît de l'histoire de l'art, c'est des domaines publics. Hein. On l'a vu par exemple pour les cathédrales, la différence entre pardon, cathédrale et manuscrit, un domaine public et un domaine privé. Mais c'est un peu pareil aussi pour des collections privées, par exemple d'œuvres de palais qui ont été décorées, que personne ne connaissait, ou alors que quelques initiés. Donc si vous voulez, vous avez aussi une histoire de l'art qui est revue grâce aux nouvelles technologies, et notamment aussi, ça c'est une question centrale, par exemple l'histoire des femmes artistes qui n'étaient jamais dans les collections, puisque elles étaient censées être soit en amateur, en amatrice, etc. Artistes, c'est très rare, elles n'avaient pas le droit aux ateliers, mais en fait, il y a quand même des femmes artistes, mais dont les œuvres sont éclatées dans souvent des appartements, des palais, des collections privées. Mais grâce aux nouvelles technologies et à la numérisation, on peut réintégrer aussi, reconstituer le corpus de certaines artistes, ou certains artistes, dits mineurs ou un peu oubliés. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose qui est intéressant aussi dans le retour que l'on peut faire sur une histoire de l'art assez, on va dire, convenue parfois. Alors aujourd'hui, donc, rappelez-vous le cloître des Espagnols, la chapelle des Espagnols dans le cloître vert de l'église Santa Maria Novella de Florence. Rappelez-vous que c'est un programme, hein, c'est un programme alors, philosophique et religieux. Et de ce point de vue-là, on peut dire que c'est presque nouveau. D'ailleurs, le fait d'associer des questionnements philosophiques à la religion. Quand vous aviez les grandes, soit les vitraux par exemple, hein, du 13e, 12e, 13e siècle, presque certains sont contemporains, soit les grandes peintures byzantines, il n'y a pas de questionnement philosophique, il y a une référence, il y a un dogme qui est établi et qui est lointain, qui est merveilleux, qui est beau, et qui est tout ce qu'on veut, qui est transcendant, mais il n'y a pas le rapport comme ça à un questionnement philosophique. Ne serait-ce que dans cette chapelle des Espagnols, le simple fait d'abord de mettre en scène, rappelez-vous, Thomas d'Aquin, ici, en train de discuter philosophie avec Platon, Aristote et Averroès, avec, à partir d'eux, c'est déjà aussi quelque chose d'intéressant. Ça valide l'idée de la réflexion et du questionnement. Alors d'ailleurs, c'est quelque chose que l'on appelle les disputes philosophiques, la disputatio philosophique en latin, qui reprend d'ailleurs les discussions philosophiques héritées des Grecs, hein, de Socrate, Platon, Aristote, etc., qui font soit les banquets, soit des discussions dans lesquelles il y a un échange d'arguments. Donc, si vous voulez, dans la tradition chrétienne, alors on va dire c'est les prémices de la Renaissance, on est au XIIIe, XIVe siècle, commence déjà à intégrer aussi cette idée de discussion philosophique. Alors, à chaque fois, il faut que l'Église triomphe. Donc, si vous voulez, c'est le triomphe à chaque fois. Mais ça montre qu'il y a une demande. Alors, c'est lié aussi à la connaissance, par exemple, la circulation des manuscrits. Si Thomas d'Aquin éprouve le besoin de se référer à Platon et Aristote, c'est parce que les textes de Platon et Aristote, je vous l'ai dit, circulent dans les manuscrits qui avaient d'abord été circulés dans le monde arabe, puis le monde grec, revenus au monde grec et gréco-latin, etc. Donc, si vous voulez, vous avez toute une circulation des textes qui génère cette discute disputation et discussion dont il faut qu'à chaque fois que l'Église triomphe. Alors, on verra le cas d'Averroès ici, qui n'est pas au pied, qui n'est pas piétiné cette fois-ci. Dans certains cas, il sera allongé. Et on verra aussi le cas d'Averroès tout à l'heure. Donc, voilà un petit peu pour le rappel. Alors, la structure, ça, on verra plus tard. Alors, les vertus aussi et l'héritage. Vous avez l'héritage philosophique, mais vous avez aussi tout ce qui constitue, ça, je l'ai déjà dit, mais tout ce qui constitue le savoir d'une manière générale. Surtout les sciences, ce qu'on appelle les arts libéraux, mathématiques, arithmétique, etc., la musique, l'architecture, la grammaire, la rhétorique, etc. Alors, vous savez que dans les arts libéraux, vous avez l'harmonie, etc., mais vous n'avez pas la peinture. La peinture n'est pas encore considérée comme un art savant. Et c'est là d'ailleurs un des enjeux progressifs vers lequel nous allons arriver, mais dans les cours suivants, c'est qu'un des enjeux, parce que les peintres ici sont quand même des peintres de plus en plus philosophes, de plus en plus instruits, ça sera de montrer que la peinture est aussi un art savant, est aussi un art libéral. Et pour ce faire d'ailleurs, pour prouver qu'elle est un art libéral, il faudra qu'elle prouve qu'elle est liée aussi aux mathématiques et à la géométrie. Ça sera l'enjeu, d'ailleurs, très vite, on verra avec Frangelico, Piero della Francesca, Léonard de Vinci, etc. De prouver que c'est un art savant, qui a des références philosophiques, etc. Donc c'est un art complet. Donc cette idée des connaissances et de la culture qui fait un tout, qui fait un ensemble, hein, ça c'est aussi, ça sera aussi d'ailleurs une conception esthétique au sens large. C'est que la beauté est faite de l'ensemble des parties, les parties sont ordonnées pour faire un tout. Une totalité faite de parties qui elles-mêmes constituent un édifice, un peu comme l'Église, comme toutes ces choses-là, comme les 12 apôtres, comme toutes ces choses-là, ça constitue un tout, c'est-à-dire que c'est ordonné, organisé. Ce qui justifie d'ailleurs la présentation globale, hein, quand on regarde la fresque dans son ensemble, ah zut, attendez, qui est, ah, c'est pas ça du tout que je voulais vous montrer, attendez, la fresque dans son ensemble, avec un tout, et là aussi, hein, comme notamment ici le triomphe de saint Thomas, et rappelez-vous, en face aussi, cette fois-ci, la valeur de l'Église. Alors là aussi, vous avez deux choses qui sont intéressantes, vous avez le domaine des idées, puis le domaine, séculier, c'est-à-dire sur le terrain réel, avec les vraies personnes, cette fois-ci pas uniquement les intellectuels, vous avez aussi, eh bien, l'Église physique, vous avez d'un côté l'Église mentale intellectuelle, de ce côté-ci, vous avez l'Église physique, l'Assemblée au sens strict, avec y compris les gardiens de la foi, etc., les dominicains. Alors à ce propos d'ailleurs, puisque j'ai fait la relation avec Giotto, alors cette fois-ci je vais revenir à Giotto, il se trouve que je vous ai dit que Giotto s'était appuyé sur saint François, sur François d'Assise, hein, pour justifier la question de l'imitation, on va dire la réactualisation de la tradition chrétienne. En fait, il n'y a pas que saint François qui est récent dans l'histoire de la religion italienne, enfin catholique à cette époque-là, François donc est du XIIe siècle, début XIIIe je crois, mais Thomas d'Aquin aussi, hein, et c'est aussi un Italien. Donc vous avez aussi Dominique aussi, le fondateur de l'ordre des Dominicains. Donc si vous voulez, derrière la peinture et toutes les peintures qui sont là, vous avez aussi globalement une sorte de réactualisation de toute la tradition chrétienne, puisque sinon elle était trop lointaine. Mais là on se retrouve avec des sortes de héros intellectuels, des héros ou des personnages qui vont marquer leur histoire et qui dans un temps assez proche. Ce qui fait que quand on va les représenter, c'est ce que je disais pour Giotto, eh bien, on est dans le temps et l'espace, et la notion de l'imitation aussi, de la réactualisation et du rapprochement, au sens même très strict. Comme on le voit ici avec cette peinture de Giotto, et cette scène dont vous avez parlé, qui est la scène inaugurale, on va dire, du rôle de François dans la culture chrétienne, c'est l'idée qu'il devient un double de Jésus, qui reçoit les stigmates, hein, comme on le voit très clairement ici. Ça, c'est une peinture de Giotto, et qui ensuite sera faite, pas n'importe où, y compris à Assise, là où François est censé avoir, pas censé, a réellement vécu. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous avez aussi des gens comme Thomas d'Aquin ou François d'Assise qui sont réellement des personnages, cette fois-ci, vraiment vécus, dont on peut trouver des témoignages écrits. Donc les représenter au niveau artistique, c'est un enjeu aussi important, parce qu'il faut que ça soit, on est presque dans une sorte de vérité. On n'est pas dans la représentation de figures lointaines, inaccessibles, divines, on est dans des vrais humains qui ont contribué à réactualiser, faire revivre un message chrétien, etc. Donc ça, c'est pas inintéressant. Alors d'ailleurs, regardez quand François Giotto ici fait la mort de François, vous avez la mort de François ici avec des sœurs, ses frères, etc., etc. et la population dans une église identifiable par les gens qui vont voir les fresques de François. Et là, regardez ici la mort de Jésus. Hein, donc Giotto fait la mort de François ici et la mort de Jésus. Et vous regardez, c'est quasiment un décalque. Ah, deux secondes. Là, ce que je décroche juste parce que c'est important. Ah, bon, je ne peux pas le faire. Voilà. Donc j'ai un fils qui passait un grand concours à l'instant. Donc j'avais hâte de savoir si ça s'était bien passé.
Vous lui envoyer la solution.
Oula. C'est un niveau qui me dépasse largement. Donc, et vous voyez cette idée du double. Et puisqu'elle est aussi cette idée aussi des émotions, c'est-à-dire que la mort de quelqu'un comme François pouvait provoquer des vraies émotions, puisqu'il était connu, il était aimé, etc. Et donc, on va avoir, y compris l'introduction de la notion d'émotion dans la peinture avec Giotto. C'est-à-dire que l'identification, c'est une identification physique, on va traduire par l'anatomie, la lumière, les drapés, le ressemblance physique. Hein, c'est-à-dire que vous avez des portraits, ce qu'on n'avait pas par exemple dans les vitraux, ce qu'on n'a quasiment pas du tout dans les peintures byzantines. Et là, vous avez vraiment des portraits, des personnages identifiables, et vous avez aussi des émotions, souffrance, désespoir, panique, etc. C'est-à-dire qu'on va pouvoir s'identifier physiquement, spatialement, au niveau de l'espace et de la lumière, mais y compris au niveau des émotions. Et là, c'est quelque chose, on dit, la tradition dit que Giotto a ramené la vie dans la peinture. Alors Giotto, c'est quelques années avant Andrea da Firenze. Hein. Andrea da Firenze, le cloître, la chapelle des Espagnols, c'est 1365. Giotto, c'est 1330, 1340 à peu près. Hein. Donc, si vous voulez, c'est quelques années après.
Ah, c'est par rapport à la peste noire, c'est comment ?
Alors non, la peste noire, elle est juste entre les deux. La peste noire, Giotto, je ne pense pas qu'il soit mort de la peste noire, mais ça correspond aux dates de la Grande Peste, etc. Donc effectivement, on est en plein dedans. Alors vous voyez d'ailleurs ici, là, avec Giotto, vous avez Jean, vous avez Marie, vous avez Marie-Madeleine, vous avez ici ces personnages qui sont dans des attitudes différentes. Et ça aussi, ça montre une diversité, mais autour d'un même phénomène, une diversité de postures, d'action. Et Giotto, c'est celui aussi qui a introduit la profondeur, hein, l'effet de lumière, la profondeur. Une des choses extraordinaires dans ce Giotto, c'est la posture de Jean, qui sera presque un cas d'école par la suite, parce que certains d'entre vous font peut-être du dessin et de la peinture, mais représenter quelqu'un vu de côté, qui est justement en perspective, avec les bras écartés, c'est très difficile. Et par contre, ça creuse l'espace. C'est-à-dire qu'on n'a plus uniquement l'espace fait par la personne autour d'un corps, mais cette fois-ci, il construit vraiment un espace en profondeur, une véritable scène. Et c'est Giotto qui a inventé cette espèce de premier plan comme une scène, au sens d'une scène de théâtre. Ça, c'est très clair de sa part. Giotto y compris avec des fonds bleus, alors que pendant longtemps la peinture c'était des fonds dorés, etc. Des fonds, rappelez-vous les fonds même pour les scènes de chasse Gaston Phébus, où le fond était souvent un motif décoratif géométrique, il n'y avait pas de lointain. Là vous avez un fond bleu qui évoque à la fois le ciel, qui n'est pas un mur. C'est un mur, mais ce n'est pas un mur, c'est une ouverture. Là aussi, c'est quelque chose qui est nouveau esthétiquement, et ça c'est très important, c'est la capacité à gérer le vide, à suggérer un espace ouvert qui soit justement pas un néant. Pendant très longtemps, l'art roman, l'art gothique, remplissait tout, toutes les zones. Avec Giotto, vous avez quelqu'un qui est capable de mettre en scène des grandes surfaces, mais qui ne sont pas anxiogènes. Hein, et ça, c'est très important. On peut dire que même la dimension apollinienne de l'art, c'est la capacité à gérer le vide ou à penser le vide ou l'espace. C'est-à-dire ne pas se rassurer toujours par le trop-plein. Comme si, justement, la qualité, la densité d'une œuvre ne vient pas forcément uniquement par la quantité, mais par l'intensité de ce que l'on voit, mais pas forcément par la quantité de surface recouverte. Donc ça, ce sont des notions esthétiques qui mènent très très loin. Alors là, dans la fuite en Égypte de Giotto, toujours, là aussi on est dans l'identification avec une scène qui se passe devant nous. Hein, ils sont vraiment en train de passer devant nous, avec y compris des personnages qui viennent de hors champ. Hein, là, ce personnage qui est coupé, qui semble vraiment surgir de la gauche, passer devant nous, et Joseph, Marie, Jésus, etc., sont en train de passer devant nous. Réellement, nous sommes témoins Alors, cette idée du témoignage qui implique aussi le spectateur, c'est-à-dire que l'identification, le témoignage, le côté vivant. Donc, vous voyez que la transposition de ce qui était valable pour des gens comme François, Thomas, qui étaient des gens vivants, que vous pouvez représenter, on la transpose aussi sur des personnages beaucoup plus lointains, beaucoup plus hypothétiques, Marie, Jésus enfant, Joseph, les anges, etc. Donc, vous avez là encore une réactualisation de tout l'art religieux à partir de Giotto. Donc, je voulais quand même rappeler un petit peu. Au niveau des émotions, regardez là encore une scène. Les émotions, ça va loin, ça va fort. C'est-à-dire que, par exemple, le massacre des innocents est ici, représenté aussi par Giotto. Et là, vous avez l'horreur totale, des enfants massacrés sous l'ordre d'Hérode. Et cette fois-ci, c'est pas une idée comme ça. C'est pas juste une phrase dans la Bible ou dans les évangiles. C'est vraiment des enfants morts avec ici la douleur et l'horreur des mères, le cynisme et la froideur des bourreaux et de Hérode, etc., qui font leur job avec toute l'horreur possible, etc. Donc vous avez avec Giotto quelque chose qui est vraiment très très clair et très net, c'est l'instauration justement de l'imitation du rapprochement physique, émotionnel, spirituel aussi, et même temporel, toute chose, on devient proche. Y compris la taille, la dimension des œuvres, que ce soit d'ailleurs dans le cloître vert, ou que ce soit les œuvres de Giotto, elles sont d'abord sur le mur, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas sur des ouvertures ou des fictions, ce n'est pas du lointain, c'est sur le mur, c'est dans l'espace, dans l'architecture, elles sont à échelle humaine, la plupart du temps. Donc vous avez presque aussi, là, je vous dis, une identification avec les modèles représentés, puisque vous êtes une confrontation stricte, et si vous voulez, la distance, elle est réduite de ce point de vue-là. Oui.
Quel est le rôle du personnage?
C'est Hérode. C'est Hérode qui a donné les ordres. Bon, je vous un petit rappel religieux. Quand, dans la tradition chrétienne, Jésus est né, le roi des Juifs en Palestine, parce que rappelez-vous que c'était un protectorat romain, donc il y a Pilate, il y a tout ça, mais alors, et puis il y avait aussi les responsables religieux, mais là il s'agit du roi temporel, Hérode, apprend que les anges, je ne sais quoi, ou les on dit que un nouveau roi des Juifs est né. Sauf que c'était roi au sens spirituel, théoriquement, Jésus devenant nouveau roi des Juifs, spirituel. Apprenant ça, il a peur d'être détrôné, et il fait massacrer tous les enfants qui sont nés, justement, à cette période-là. C'est pour ça, d'ailleurs, que Jésus, Marie, Joseph fuit en Égypte, et il fait massacrer... Alors, c'est tout bête, c'est une reprise exacte de Moïse et de la Bible, de la Bible ancienne. Ça, Nouveau Testament et Ancien Testament sont aussi toujours des réactualisations. Donc, ce n'est déjà l'histoire de Jésus, une réactualisation souvent des vieilles Bibles, et le temps s'éloignant, on voit au XIIIe, XIVe siècle, vous avez aussi la nécessité encore de réactualiser quelque chose qui s'éloigne aussi dans le temps. Donc très souvent, on remet des petites couches pour réactualiser des personnages, pour les rendre aussi vivants. Hélas, le massacre des innocents, en dehors de la Bible ou de l'Évangile, etc., c'est quelque chose qui existe encore, et on le sait bien. Donc, quant à ça, c'est un universel humain qui fait problème et drame tout le temps. Donc, si vous voulez, il y a aussi, c'est d'ailleurs l'intérêt de Giotto, c'est qu'on va au-delà de la simple histoire biblique ou religieuse. Ça dénonce aussi toutes les guerres, toutes ces choses-là, les réfugiés, les gens qui fuient, c'est tout bête. Donc, au-delà même de la religion, vous avez une famille qui fuit et qui est nomade, etc. Donc, ça, c'est assez clair. Et y compris à laquelle on peut s'identifier. Bon, ça, je passe sur Jésus arrivant à Jérusalem. Alors, au niveau des émotions, Giotto montre même une scène qui était classique, c'est que Jésus, chassant les marchands du temple, il arrive à Jérusalem, il arrive à la période de Pâques, et quand il arrive dans le temple, qui est une basilique romaine, ou une synagogue de l'époque, qui était sans doute plus ouverte que certaines synagogues maintenant, et vous avez des marchands, puisque ça sert à tout, le temple sert à tout. Et donc Jésus furieux est pris d'un seul accès de colère, mais ça le rend très humain justement. Du coup il se fâche et il chasse les marchands en les fouettant, en les tapant, en les menaçant, en renversant toutes les tables, etc. En disant il faut séparer les lieux, il y a un lieu pour le marché et il y a un autre lieu pour la prière et donc on ne peut pas mélanger les deux. Donc vous avez cette espèce d'irruption de Jésus mais qui rend encore cette idée de la colère et d'une certaine violence qui rend encore plus humain. Et on est très proche d'ailleurs du geste du père de François qui tout à coup est furieux contre son fils, etc. Cette idée d'exprimer aussi des émotions, y compris sur Jésus, c'est encore de Giotto que ça vient de façon très très claire, avec y compris les potes de Jésus ici, les apôtres, Pierre, etc., qui sont un peu inquiets, qui se disent, qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qui se passe, voilà. Et vous avez encore aussi les enfants que l'on cache et dit, regarde pas, Jésus, le monsieur se fâche, etc. Et il y a exactement la même scène avec l'histoire de François. Donc vous voyez que on voit bien cette espèce de porosité entre les deux histoires de François et de Jésus, et de réactualisation.
Mais là, le temps qu'il a l'air... il a l'air tout petit, quoi. En fait, quand on raconte cette histoire,
oui.
C'est majestueux comme scène. C'est énorme,
oui.
Un temple, un tout petit bonhomme. Et là, c'est tout le contraire, c'est des grands personnages.
Mais ça, c'est parce que... Oui, mais c'est parce qu'en fait, tu as raison, tous les décors chez Giotto sont des décors un petit peu, c'est un peu comme des attributs. Mais de ce point de vue-là, Giotto est assez proche d'un décor de scène de théâtre. C'est-à-dire que la scène principale, c'est les individus, et en gros, c'est des attributs qui permettent d'identifier. Mais ils ne maîtrisent pas la perspective, donc ils ne sont pas capables, même s'ils commencent à envisager l'ouverture de l'espace... ils ne savent pas le construire. Ils ne savent pas gérer la profondeur. Ils ne savent pas construire, etc. Donc, plus tard, on verra avec la perspective, ce sera même quelque chose de très intéressant, on pourra montrer des bâtiments gigantesques, mais qui sont plus loin, donc on peut les représenter en entier. Ils sont grands, mais on les voit plus petits parce qu'ils sont plus loin. Tandis que là, comme il n'y a pas la profondeur, elle est limitée à une scène de théâtre, c'est-à-dire que c'est quelques dizaines de mètres, même pas, c'est 10 mètres à peu près. Le temple, soit on met tout dedans, donc c'est une sorte d'attribut, c'est un petit code, et à chaque fois, même la nature est représentée comme ça. Chez Giotto, si on voit un arbre, on voit un rocher, c'est un signe, c'est une sorte de signe.
Mais en fait, on a l'impression qu'il a compris quand même, parce qu'il fait les bâtiments petits,
bien sûr,
mais il les met dans le même plan, donc du coup, c'est...
C'est une sorte de dosage, et on voit vers où ils veulent aller. Alors la question de l'architecture, on voit bien que, tu as raison de dire, parce que modeler, effet de lumière, les détails sont très fins, mais la proportion est fausse. La proportion est fausse de façon très claire, parce que le système perspective, et il y a aussi une question qui est fondamentale, c'est que si on commence à ouvrir l'espace, qu'est-ce qu'on fait du vide et du lointain? Comment est-ce qu'on le remplit? Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Donc il y a une question vraiment presque... Qui ne correspond pas du tout à leur vision du monde, qui est un monde clos, fermé et totalement bouclé. Donc cette idée d'ouvrir le vide, là, d'ailleurs c'est un bleu qui n'est pas un bleu climatique. C'est un bleu qui n'est nuit, ni jour, ni matin, ni etc. C'est une sorte de symbolique. C'est un bleu d'azur, un bleu, on va dire, soit marial, soit un bleu spirituel. Et c'est une surface, mais ce n'est pas un ciel. C'est un fond bleu. Ce qui fait, d'ailleurs, il y a un statut très intéressant sur le bleu de Giotto, parce que ce n'est pas un ciel. Il est à la place du ciel, mais ce n'est pas un ciel, il n'y a pas de dégradé, il n'y a pas d'étoiles, etc. Donc, parce que c'est une sorte d'interrogation, Giotto ne résout pas tous les problèmes. D'ailleurs, ici, c'est pareil, la porte de Jérusalem, les arbres, il met trois arbres, ce n'est pas une forêt, c'est juste...
Il accroche des anges de
ce n'est pas les anges, c'est les gens qui vont décrocher... Vous ne connaissez pas votre calendrier, les rameaux. Le dimanche des rameaux, c'est avant Pâques. Martine, c'est les rameaux qu'on va mettre au pied de Jésus quand il arrive à Jérusalem avec les tissus pour pas qu'il ne soit souillé par le sol. Donc, symboliquement, c'est les rameaux avant Pâques.
Puisque...
je suis obligé. j'ai des origines. J'ai des oreilles, puis en histoire de l'art, on est un peu obligé. Donc, le dimanche des rameaux. Et l'âne, je passe. Mais vous voyez, même là aussi, les éléments de décor sont des éléments de décor purs, mais pas une représentation. Donc, l'imitation, elle est essentielle. Alors, essentiellement sur les corps, les émotions, l'humain, et le reste, c'est pas encore. Alors, il y a une raison aussi. C'est que comme on est dans une véritable architecture, on n'a pas besoin de. On ne pense pas nécessaire de suggérer d'autres lieux, puisqu'on est déjà dans un lieu lui-même très fort et très porteur. D'ailleurs, rappelez-vous, ce qui constitue d'ailleurs... Ici, les gens, ils enlèvent leurs chemises pour les mettre par terre. Ils vont mettre leurs habits par terre pour que le sol, puisque l'âne portant Jésus, alors c'est tout un symbole de l'âne humble, animal qui porte la parole, c'est une vieille tradition de l'âne aussi, l'animal le plus humble, et en même temps qui est porteur de parole et de message. Et donc, c'est pas n'importe quoi. L'âne, on va le trouver ici. D'abord, il est humble, c'est pas un cavalier. Hein, donc c'est quelqu'un qui sur un âne, tout ça. On va retrouver ça avec Sancho Panza, plus populaire, avec le chevalier sur ça. Donc l'utilisation de l'âne, elle est importante. Mais là, le petit âne ici, ben, il faut en même temps, il faut qu'il puisse ne pas être souillé par le sol. Alors, le sol comme un lieu dont il faut se séparer, on a ça toujours dans toutes les traditions, enlever ses chaussures, mettre un tapis de prière, dans les églises, avoir des lieux dans lesquels on va être dissocié du sol, le sol étant la souillure, la saleté, ou le corps, l'animalité, la mort, tout ce qu'on veut, c'est le retour au sol. Donc enlever ses habits, c'est une vieille tradition hein, qu'on retrouve. Moi j'ai vu au Portugal une fête comme ça, le sol était du village était entièrement jonché d'herbes et de tissus, c'était très beau, hein, parce que c'était une procession religieuse, c'était un moment aussi de le quotidien, le rendre un petit peu aussi merveilleux. Hein, c'est pas, y a aussi quelque chose de la fête là-dedans. Bon, la trahison, ça j'ai vu. Alors, ça je vous montre, alors ça au niveau du rapport masculin-féminin, Giotto nous montre aussi cette scène dont je vous ai parlé, Nolimé Tangere, là où Marie-Madeleine voit Jésus ressuscité apparaître, mais il s'éloigne d'elle, puisque il n'est plus humain, il est devenu divin, enfin, et donc il est ici blanc, avec la croix de la résurrection, et donc elle s'approche de lui, mais elle ne peut plus le toucher. Parce que quand il était mort, il lui touchait encore les pieds, il était encore un corps mort physique, un humain, là il est devenu divin, et il s'éloigne d'elle, du genre, voilà, il a sa mission, etc. Alors, là c'était un petit rappel sur Giotto. Alors voilà, pour vous montrer quand même les œuvres de Giotto, je parle de l'architecture, c'est aussi pour ça. Les fresques sont dans des lieux dédiés, parce que c'est pas n'importe quel lieu. Ce sont des chapelles, ce sont des cloîtres, ce sont des églises, donc si vous voulez, tout ça aussi fait, le décor, il n'est pas uniquement dans l'image, il aussi, c'est l'image qui est dans le décor, quelque part. L'image, elle est dans un lieu, donc il y a aussi une sorte d'articulation entre ce que l'on voit et là où l'on est. Donc ça c'est la chapelle Saint-Georges des Scrovegni à Mantoue, hein, et c'est Giotto, et là je vous ai montré les églises d'Assise, église basse et église haute, où il n'y a pas que Giotto, il y a d'autres artistes autour de Giotto, mais c'est très important, dans l'histoire de l'art ça a marqué de façon très claire. Alors Giotto, je voulais vous montrer maintenant d'autres œuvres autour de ce que je vous ai montré, la chapelle des Espagnols. Avant ça, une petite question technique, parce que je crois que je ne l'avais pas vu avec vous sinon l'année dernière, c'est comment sont faites les fresques, puisque avec que ce soit la chapelle des Espagnols, ou que ce soit tous les cloîtres qu'on va voir, ou les peintures de Giotto, la fresque, elle est faite en fait, attendez, avec une sorte de crayon, par exemple ici, elle est faite avec une sorte de pinceau crayon, alors souvent ce qu'on appelle la terre de sinople, ou sinope, sinope, oui. Et c'est la terre de Sienne, en fait. D'ailleurs, on est en Toscane, hein, la terre de Sienne, c'est ce rouge ocre brun, là, qui est très fort, qui est une coloration naturelle. Et en fait, les dessins sont faits sur les murs, avant la peinture. Et il y a une technique assez complexe, c'est qu'on va refaire un enduit. Ça, je vous avais dit ça les années précédentes, mais je le redis. Là, le dessin peut être fait alors sur ces dessins-là. Alors, je vous expliquerai l'histoire de ce musée-là, qui est assez remarquable. Certains l'ont déjà vu, peut-être. Voilà. Vous voyez dans le dessin, ben, vous avez des brouillons, vous avez des choses qui sont évoquées, vous avez des essais déjà de volume et de relief, vous avez quelques lignes ici de décor architecturé. Ça, c'est assez clair. Vous avez même des repentirs, vous avez des choses qui sont plus ou moins appuyées. C'est vraiment un brouillon. Un brouillon qui va être plus ou moins définitif une fois que les choses sont bien en place. La composition. Donc on voit même des effacements, des repentirs, c'est des très grands brouillons qui sont faits à même le mur. Ensuite, vous avez ces recouverts. Eh bien, alors attention, c'est recouvert journée par journée. Comme la fresque doit être peinte sur un enduit frais, fresco, eh bien, il ne faut pas que ça sèche trop vite, et parce que si, une fois que c'est sec, la peinture ne rentre plus dans le plâtre frais, et donc elle sera beaucoup moins solide. Et elle sera pas piégée par la fresque elle-même, par le plâtre, par l'enduit. Il faut que la peinture rentre dans un enduit frais, soit absorbée, de façon à ce qu'elle sèche avec lui, ce qui la rend beaucoup plus solide. C'est-à-dire que si elle est en surface sur un enduit sec, ben elle se décollera au fur et à mesure des temps. Elle sera plus fragile parce qu'elle n'aura pas absorbé.
Si vous pouvez... Ça veut dire qu'il fait morceau par morceau.
Tout à fait. On appelle ça una giornata, une journée. Et donc, en général, vous avez une journée. Le peintre va donc... une journée ou plusieurs journées, mais s'il veut faire une tête, il va enduire juste la partie de la tête. Il va faire la tête. Le lendemain, il va faire le bas. Parce qu'il ne peut pas tout peindre. Et après, quand c'est frais, en plus, c'est encore un peu transparent.
Oui, je vais dire à quoi ça sert de recouvrir.
Eh bien, c'est quand c'est frais, c'est encore un peu transparent. Il y a ça aussi. C'est quand c'est sec, ça devient opaque. Hein, on connaît ça, par exemple, un papier humide, il va être un peu plus transparent, etc. Après, il y a d'autres techniques. C'est quand c'est frais, ils font un décalque. Mais ça, c'est Michel-Ange fera ça. Ils font des grands cartons, et ensuite, ils posent le carton sur le frais, ils font des petits trous, ils font un calque, des petits trous sur tous leurs dessins. Ils enlèvent le carton, mais il y a des trous sur le plâtre, et ils ont leur dessin, en gros, qui est fait.
Alors, c'est du plâtre, c'est de l'enduit ?
C'est un enduit, alors, avec, je sais pas quoi, justement, c'est une technique assez spéciale. Quand Léonard de Vinci fera la scène à Milan, il va vouloir modifier les techniques de fresque, il va se planter, il va tout rater. Il y a des anecdotes sur les techniques de fresque qui sont assez marrantes. Même Michel-Ange, à 65 ans, quand il fait le jugement dernier, tous les gens qui avaient enduit le truc disent « Le papy, il est vieux, à 65 ans, il ne va pas pouvoir faire à fresque un truc comme ça, c'est trop fatigant de peindre vite, etc. » Donc il lui faut un enduit, on va dire « Il va peindre à l'huile, parce que c'est plus facile de peindre à l'huile, on peut prendre son temps, on n'est pas obligé de se presser, etc. » Quand Michel-Ange arrive, il dit « Qu'est-ce que c'est que ces conneries, la peinture à l'huile, c'est pour les feignants. » Vous cassez tout, vous refaites de la fresque, moi je veux peindre en fresque. Je veux peindre en fresque. Donc parce qu'il y a une tension en fresque, il faut travailler plus vite. C'est plus physique, vous pouvez moins vous planter. Parce que si vous plantez, on ne peut pas gommer, on ne peut pas reprendre. Donc si vous avez quelque chose ici qui est plus vivant aussi, dans la fresque, et c'est un jeté aussi. Mais ils n'inventent pas. C'est pour ça d'ailleurs que la fresque dans la chapelle des Espagnols, on voit bien que c'est construit. L'artiste n'arrive pas ici pour dessiner son truc directement. Alors ça, si vous voulez voir ce musée sublime, qui s'appelle le Museo dello Sinopie, ou delle Sinopie, c'est à Pise. Et là, vous avez des brouillons, justement. Et, bon, ça, c'est autre chose. C'est d'autres sinopiers.
Mais comment on a récupéré les
brouillons ? Alors, voilà. Ah, je ménage le suspense.
C'est sur le mur ?
C'est grâce à la guerre. C'est grâce à la guerre 39-45. Il y a eu un bombardement des Alliés à Pise. Et le bombardement a fait tomber les fresques. C'est-à-dire, les morceaux de plâtre sont tombés. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des dessins en dessous. Sinon, on ne les connaît jamais. On ne les connaît jamais. Et donc, comme l'enduit, il a une certaine épaisseur, je sais pas, un demi-centimètre ou un centimètre, ils sont tombés à peu près en miettes. Mais, évidemment, ensuite, ils ont été tous recollés, là, morceau par morceau. Donc, ils ont été remis en place. Mais ils ont eu l'idée géniale, au lieu de recouvrir les dessins, de décoller les dessins, de les mettre dans un bâtiment à part, et de remettre les fresques au Campo Santo de Pise. C'est le cimetière à Pise, vous savez, le baptistère, la tour et le Duomo, l'église, mais vous avez aussi le cimetière, qu'on appelle le Campo Santo, qui est entièrement recouvert de fresques. Alors, d'un artiste dit mineur, mais intéressant, c'est Buffalmacco. Mais bon. Et à Pise, vous avez donc la possibilité de voir les brouillons au musée des Sinopiens et les fresques. C'est le seul endroit où on peut voir les deux.
Et je ne comprends pas comment c'est les fresques, c'est une couche.
C'est une couche d'enduit, une couche de plâtre.
C'est une couche qui tient.
Qui est faite sur le mur, et donc si tu veux, avec les vibrations des bombardements, plaque. C'est tombé. Et en dessous.
Elle s'est pas cassée.
Elle s'est cassée en petits morceaux, mais ensuite ils ont recollé les morceaux. C'était un vrai puzzle, quoi. Mais en gros, c'est ce qui a été fait, mais avec l'idée géniale, pour la chance tout d'un coup d'avoir. Les brouillons des fresques. Donc on s'est dit, on a compris aussi comment ils travaillaient. Parce qu'on se disait aussi, comme je vous ai dit, il n'y a pas de manuscrits qui disent comment ils... Il n'y a pas de recette d'atelier. On ne sait pas. Les artistes ne font que de recettes. C'est toujours transmis aussi, oralement, de maître à élève. On apprenait à peindre en allant dans un atelier dès 12-13 ans, et puis on apprenait le métier dessus, et ça se traduisait comme ça, c'est des expériences d'atelier, mais jamais vous ne trouverez de recette, on ne trouve pas d'explication.
C'est secret fabriqué.
C'est secret, oui. Ce qui permettait aussi de préserver la profession, on a vu ça. Donc voilà la technique de la fresque qui est quand même intéressante. Alors, il y a un ou deux endroits où on a pu, j'ai découvert aussi moi par hasard, quelques années, ce sont les fresques et les sinopies de... Comment il s'appelle ? Et voilà, de Pisanello, qui est un grand peintre de la Renaissance, Et là, on a retrouvé aussi ces brouillons. C'est à Mantoue, au palais ducal de Mantoue, qui est connu pour la chambre des époux, etc. Mais dans lesquels on a trouvé aussi les brouillons du grand peintre Pisanello. Et là, on voit, là, c'est extraordinaire, parce qu'on voit bien aussi la liberté dans le dessin, un petit peu comme dans les manuscrits. Tant que ce n'est pas de l'art officiel, l'artiste est beaucoup plus libre. Donc il fait des recherches, il fait des brouillons, il y a des choses qui sont très très vivantes. Mais ensuite, la peinture va quelque part faire rentrer les premiers jets artistiques dans des codes et des normes de l'époque, esthétiques de l'époque. Donc souvent, les sinopiés, les brouillons, les ébauches sont extraordinaires. Et ça ne meurt pas. Là, on se rend compte, dès qu'on fait un peu de dessin, on se rend compte que les artistes sont toujours exactement confrontés au même... Le dessin est beaucoup plus universel, finalement, que la peinture. La peinture, elle rentre dans les codes, on va dire, esthétiques dominants. Le dessin, c'est vraiment quelque chose qui est une sorte de saisie directe, qui est beaucoup plus vivante, beaucoup plus universelle. Alors, ça, c'était pour la technique sur les sinopiés et la fresque. Alors, c'est une des techniques de fresque. Alors, il y a aussi quelque chose que je voulais vous montrer, c'était quand même... Justement, les gens comme... Alors, l'importance de Thomas d'Aquin dans la tradition chrétienne, ça commence effectivement après sa mort, évidemment, hein, puisqu'il meurt, je crois, au XIIIe siècle. Hein, et donc, il est la ville d'Aquin. Et on dit que, justement, Thomas d'Aquin, et ça, c'est intéressant, il s'est fait connaître aussi par ses discussions, par sa philosophie, par le fait d'avoir réussi à intégrer la tradition platonicienne et aristotélicienne, et aussi avoir réussi à confondre, mais par la discussion philosophique, pas par la violence, le philosophe musulman Averroès, qui lui date du XIIe siècle, je crois que c'est un grand philosophe, on verra plus tard. Et là, vous avez effectivement une peinture qui est au Louvre, pas celle-ci, et c'est encore le triomphe de Thomas d'Aquin, avec ici, vous avez les... Saint Paul, vous avez Saint Jérôme, vous avez tous les grands écrivains, on va dire, de la tradition chrétienne, les évangélistes, les penseurs, les philosophes. Vous avez ici les philosophes gréco-romains, grecs, hein, Platon, Aristote, et ici un philosophe musulman, mais Thomas d'Aquin qui réussit à triompher de ces philosophes qui ne sont pas chrétiens, triompher en montrant quelque part que leur pensée, elle est presque compatible avec la pensée chrétienne. C'est un petit peu ça, d'ailleurs, que va faire Thomas d'Aquin, entre guillemets. C'est montrer que Platon, il est compatible avec le christianisme. Oui.
C'est lui qui a affirmé que la phrase « je ne crois que ce que je vois ».
Ah non, c'est pas le même Thomas.
C'est pas le même.
C'est pas le même Thomas. Parce que ça, c'est un Thomas... Thomas d'Aquin, c'est un Thomas, donc, du XIIIe siècle. Le Thomas de Jésus, il est contemporain de Jésus. Donc, effectivement, c'est pas le même Thomas.
Parce que c'est philosophique.
Alors, voilà. Mais ça, c'est le Thomas... philosophe. Alors, il y a aussi un enjeu qui est important derrière ça, derrière Thomas, derrière François, derrière Saint-Dominique, etc. C'est de réhabiliter, enfin, pas de réhabiliter, mais là aussi d'actualiser, de mettre à jour les institutions et les prêtres. Parce que, comme je l'ai dit, on est en pleine période hérétique. En France, on est les cathares. Vous avez vu le nom de la rose, les Bogomiles, tous ces trucs-là, vous avez tous ces... De sectes dissidentes qui, justement, le christianisme étant trop lointain, se permettait effectivement de faire des interprétations diverses et variées. Et là, vous avez aussi la nécessité de ramener les brebis, les moutons égarés, et d'instituer aussi le pouvoir des clercs, entre guillemets, et des institutions religieuses, que ce soit les moines, les prêtres, les évêques. Alors, c'est valable intellectuellement, mais ça permet aussi de ressouder tout le christianisme derrière des ordres. Alors là, il y a vraiment une hiérarchie, c'est-à-dire que, d'accord, c'est intéressant Platon, d'accord, c'est intéressant Aristote, mais il faut quand même au secours, il ne faut pas que ça se barre dans tous les coins. Parce que si les manuscrits sont lus par tout le monde, etc., et qu'il y en a qui disent, moi je suis platonicien, moi c'est un truc tout bête, mais il faut aussi faire rentrer dans le rang. Donc vous avez quelque chose qui est très important, il y a un enjeu, c'est pas juste, tiens, je vais faire la tête de saint Thomas, etc. Et vous voyez, et ça c'est un... Il n'invente pas, hein, toujours Averroès au pied quand même. Alors ça c'est. Alors je le montre parce qu'on verra plus tard qu'il va, il va changer. Bon, il est soumis quand même. Il est soumis.
Il travaille plus.
Alors là par exemple c'est cette peinture qui est au Louvre, hein, c'est de Benozzo Gozzoli et dans laquelle vous avez effectivement toujours Averroès, Platon et Aristote. Alors, eux qui sont pas au pied, hein, parce qu'ils auraient pu être chrétiens quelque part. Parce que c'est un peu ce qu'on appelle, c'est que le christianisme n'existait pas encore, donc ils n'étaient pas juifs non plus, mais quelque part ils font partie de penseurs qui, quelque part, ont parlé du démiurge, du créateur, ont séparé aussi la physique de l'esprit, le corps de l'esprit, donc ils sont compatibles avec le christianisme. Et Averroès, c'est aussi quelqu'un qui est très important, et on va voir pourquoi, parce que lui, il pose la question de la raison. Il pose la question de la raison et de la foi. Et là, il y a quelque chose qui aussi est terriblement dangereux, c'est qu'est-ce qu'on fait de la raison. Et vous avez donc cette idée avec ce grand philosophe qui est Averroès, et alors on va le voir d'ailleurs plus tard. Donc voilà. Alors voilà Thomas avec les bouquins et l'Église. Hein. Et l'Église comme bâtiment, mais l'Église aussi comme pensée. Ça, c'est une peinture. Donc des peintures de Thomas d'Aquin, il y en aura plusieurs. Alors Thomas, ça c'est moi qui ai fait ça. On verra ça plus tard. Je reprendrai l'idée. Mais Thomas aussi éclairant, éduquant, hein, avec le petit chien. Si, alors ça, le petit chien. Ça c'est plus tard, hein, c'est des peintures plus tard, mais la représentation de Thomas d'Aquin, elle est très importante, et ça c'est des peintures, cette fois-ci, de la Renaissance, donc plus tardive, mais si vous voulez, c'est pour vous montrer que l'œuvre du cloître des Espagnols, de chapelle des Espagnols, n'est pas une œuvre à part. Elle rentre dans un corpus qui est vraiment global, de réhabilitation, d'actualisation, de la pensée, de la présence, des ordres, etc., et qu'elle s'inscrit toujours dans un programme culturel artistique. Alors, je passe ici. Ça, je dis. Alors, voilà, Thomas d'Aquin ici, représenté dans ce qu'on appelle le Studio Londurbino, sur lequel je reviendrai, et on le voit aussi dans des gestes aussi de discussion de la rhétorique. C'est-à-dire que là, en général, les gestes des mains, c'est une cause, deuxième cause, troisième cause, des réfutations, etc. C'est la discussion. Hein, donc, les gestes des mains ici sont pour montrer qu'on est dans la discussion. Alors ça, c'est quand même la Renaissance aussi. On n'est pas encore à la Renaissance, enfin, sauf dans cette peinture, mais si vous voulez, autour de Thomas d'Aquin et d'autres, on verra qu'on commence à être dans cette idée que, malgré tout, c'est par la discussion, par la connaissance, par le savoir que, quelque part, l'humanité va progresser et que c'est compatible aussi avec la religion chrétienne, parce que c'est ça l'enjeu. Juste une chose, et je ne savais pas, mais j'y étais l'année dernière, mais il se trouve que les restes de Thomas d'Aquin sont à Toulouse. Au couvent des Jacobins. Un couvent des Jacobins qui est un magnifique édifice gothique à Toulouse. Je vous conseille de le visiter, c'est un magnifique bâtiment, que ce soit le couvent ou l'église principale. Et il y a les restes de Thomas d'Aquin qui sont revenus d'ailleurs, parce que là, ce n'est pas des légendes, hein, il a vraiment existé à Toulouse. Donc voilà. Ça va le faire ici. Ah non, voilà. Donc vous voyez Thomas. Alors il n'y a pas que Thomas dans les réactualisations. On a vu qu'il y avait donc Thomas, on a vu François. Alors justement, voilà un manuscrit qui montre Averroès discutant avec Porphyre, etc. Donc Averroès, philosophe musulman. Donc le principal apport d'Averroès, qui est essentiel, qui d'ailleurs même encore maintenant fait un enjeu, même dans la tradition musulmane, l'islam contemporain, c'est très important, c'est justement de séparer ce qui est du domaine du religieux du domaine de la raison. En gros, si vous voulez, l'atout extraordinaire d'Averroès, c'est de dire, d'un côté, il y a la foi, puis de l'autre, il y a la raison, qu'est-ce que je fais de ma raison? Qu'est-ce que je fais de ma foi? Est-ce que j'utilise pour comprendre le monde, ou pour me rapprocher de Dieu? Ou est-ce que ça peut m'éloigner de Dieu? Ou est-ce que Dieu doit être validé par la raison? Ce qui semblerait une absurdité, puisqu'il est incompréhensible, mais dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait de la raison? Donc vous avez des questionnements autour de la raison et de la foi. Et des questions essentielles philosophiques, c'est-à-dire que si on dit qu'il faut utiliser la raison pour approcher de la foi, ça s'oppose à tout ce qui est grâce, révélation, etc. Parce que dans ce cas-là, on n'a pas besoin de la raison. Mais dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on a la raison? À quoi ça sert? Est-ce que ça sert simplement à admirer les œuvres de Dieu? Donc, par exemple, la science. Ou admirer, ou comprendre, mais comprendre jusqu'où? Ou est-ce que ça sert simplement comme ça à organiser les faits quotidiens? Ou est-ce que ça peut servir à nous rapprocher de Dieu? Ou est-ce que c'est incompatible? Donc vous avez des questions qui deviennent très importantes, sur lesquelles vous avez des disputes terribles, mais c'est quelque chose qui va enthousiasmer là jusqu'à maintenant encore, hein, ces questions-là. C'est qu'est-ce qu'on fait du sentiment religieux ou d'une révélation religieuse? Alors voilà un manuscrit qui montre Averroès discutant, je crois que c'est ici avec Porphyre, et on dit que justement Thomas d'Aquin aurait réussi à utiliser les arguments d'Averroès et à prouver que quelque part les arguments d'Averroès amenaient à dire qu'il fallait utiliser la raison pour se rapprocher de la foi. C'est-à-dire que, donc la raison, il fallait la diriger vers la religion. C'est qu'il y avait peut-être une voie d'accès qui était la grâce, ou la révélation, comme ça. Mais la raison, en fait, pouvait nous permettre aussi de retrouver et de nous rapprocher de la religion. Donc, si vous voulez, au lieu de s'en éloigner, au lieu d'être séparé, c'est quelque chose qui permettait de s'en rapprocher. D'ailleurs, c'est ça l'apport de Thomas dans la tradition chrétienne, c'est justement, il réussit à ne pas nier l'importance de la raison. Ça veut dire, la raison, c'est-à-dire les sciences, les savoirs. C'est pour ça qu'il est entouré de toutes les vertus, de tous les arts libéraux. C'est que tous ces arts libéraux, au lieu de s'éloigner, ça permet de rapprocher ou célébrer la tradition chrétienne. Vous voyez, c'est un enjeu là. On verra plus tard avec Raphaël et d'autres, ça va changer. Alors, vous avez, d'ailleurs, j'y reviendrai plus tard sur ce fameux Studiolo d'Urbino, mais ça, je vais vous présenter plus tard. Alors, vous avez aussi, dans les personnages religieux importants de l'époque, et qui se sont réhabilités, vous avez par exemple Dominique, justement, qui a fondé l'ordre des Dominicains, hein, qui est ici peint par Frangelico. Lui aussi, c'est un Italien, je crois, du 11e ou 12e siècle. Donc, c'est des gens, cette fois-ci, je vous dis, qui ont une importance très grande et qui sont célébrés. Et là, vous avez justement Dominique, encore peint par Frangelico, qui est au pied d'une peinture sur laquelle je reviendrai, d'ailleurs, tout à l'heure. Et là, vous avez Saint François et Saint Dominique, parce que là aussi, vous avez, je vous ai dit, c'est important, hein, il faut montrer que vous avez il y a des tensions, mais tout ça, c'est compatible. Et François et Dominique, rappelez-vous, c'est les deux aspects de la religion aussi. François, c'est du côté des pauvres, c'est le côté un petit peu naturaliste, presque pauvre, ordre mendiant, ce qu'on appelle les cordeliers ici en France, ils ont leurs cordes, etc. Et vous avez les dominicains, c'est les intellectuels. Et rappelez-vous que dans presque toutes les villes, vous avez l'église des dominicains, l'église des franciscains. Mais il ne faut pas qu'ils soient opposés, c'est montrer que ce sont les deux jambes, ou les deux aspects d'une même foi. Donc vous avez toujours cette idée de rassembler des choses qui semblent différentes. La raison et la foi, les franciscains et les dominicains, le corps et l'âme, etc. Toutes ces choses-là, il faut montrer que sinon ça se barre dans tous les sens. Et donc il y a presque toujours, il y a un enjeu ici de montrer que c'est compatible. Et c'est plusieurs aspects d'un même monde complexe. Et là encore, une peinture de Frangelico qui montre donc François et Dominique en train de se serrer la main, genre, hey, ok, chacun son boulot, mais on est potes, etc. Et voilà. Et donc, vous vous rappelez, donc l'église de Santa Maria Novella, c'est une église dominicaine, alors que l'église Santa Croce est une église franciscaine à Florence. Et je vous ai rappelé, mais à Venise aussi, vous avez les Frari, vous avez les Zanipolo, qui sont aussi les deux églises. Et dans presque toutes les villes, vous avez ces grandes églises qui sont séparées. Alors, je voulais vous montrer aussi cette importance de la raison, etc., et de l'ensemble des vertus. On va le retrouver jusqu'au 15e siècle sur ce personnage un peu étrange. Là, cette fois-ci, c'est plus du tout un saint, c'est un duc. C'est le duc de Montefeltre, que l'on voit ici en armes. Et en même temps en train de lire, donc là aussi il concilie à la fois homme d'action et homme de contemplation, homme de terrain et homme de religion. Et c'est lui d'ailleurs qui était quelqu'un de très lettré et qui a fait construire le fameux Studiolo d'Urbino, dont il y a une partie au Louvre d'ailleurs. C'est un cabinet de manuscrits, hein, qui est le petit Studiolo, c'est le petit cabinet, quoi. Enfin pas si petit que ça d'ailleurs, sur lequel il va faire une grande collection de manuscrits là. Anciens, antiques, gréco-romains, chrétiens, etc. Et dans laquelle il fait représenter, c'est pour ça que j'y reviens, y compris tous les personnages importants. Donc on va retrouver Thomas ici, on va retrouver ici, je ne sais pas qui c'est peut-être saint Augustin, on va retrouver Moïse, on va retrouver ici, je ne sais pas, c'est peut-être David sans doute, on va retrouver des penseurs chrétiens, des penseurs bibliques, on voit ici saint Nicolas, je crois, ou saint Jérôme, enfin des. Et ils vont tous être représentés ici. Maintenant, saint Jérôme est ici, Nicolas. Ici, je crois que c'est Ptolémée. Vous allez voir Platon et Aristote ici. Platon ici, Aristote ici. Donc, vous avez cette idée de constituer un savoir quand même. Ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus important. Donc, ça, c'est un siècle après la chapelle des Espagnols, mais c'est des choses qui commencent à s'implanter vraiment, durablement dans la tête et l'esprit, notamment en Toscane et à Florence. On est, ici c'est à Urbino, l'autre est à Florence, vous voyez, on n'est jamais très loin. C'est vraiment la Toscane qui est un laboratoire de pensée philosophique, religieuse, chrétienne, artistique, et qui est vraiment très très conséquent. et qui est en plus qui s'inscrit dans une histoire locale, puisque que ce soit des gens comme François d'Assise ou Thomas, c'est des Italiens. Donc on a vraiment là aussi un ancrage historique qui est remarquable. Alors, le Studiolo d'Urbino, j'y reviendrai de toute façon, puisque ça fait un peu partie du programme. Alors, justement, j'étais avec Frangelico, et bien on va y rester, puisque si vous voulez, on va quitter la chapelle des Espagnols, pour aller cette fois-ci pas loin, on va aller, nouveau chapitre, on va aller au couvent San Marco, qui est toujours à Florence, c'est à quoi, je sais pas, 500 mètres, Florence, c'est quand même terrible, c'est que on nage dans les œuvres majeures de l'histoire de l'art, et là on va voir aujourd'hui les cours suivants, autour de ce peintre très particulier, Frangelico, qui était donc moine, qui est même abbé du couvent San Marco. Alors voilà le couvent San Marco, ici. Que d'ailleurs, ici vous avez donc l'église, le bâtiment principal. Vous avez ici un premier cloître, et vous avez ici un deuxième cloître. D'accord ? Et donc on est au cœur. Alors, ceux qui connaissent un peu Florence, je crois me souvenir, voilà. On n'est pas loin du tout de la place du Dôme et de la Santa Maria Novella. Chaque fois, ça se fait à côté. Et là, on est vraiment cette fois-ci au XVe siècle. On est au XVe siècle, on est vers 1430-1440. Il y a eu un trou, rappelez-vous, en grande partie lié à la peste noire. Il y a eu une population décimée. Presque la moitié de la population est décédée, est morte. Donc, si vous voulez, entre Giotto et la chapelle des Espagnols, on sent qu'il y a une sorte de pulsation, il y a un mouvement artistique, intellectuel très fort. Même Andrea da Firenze, la chapelle des Espagnols, c'est après la peste noire, mais c'est un peu les derniers feux de cette espèce de pré-renaissance. Et après la fin du XIVe siècle et les débuts du XVe siècle, il n'y a pas grand-chose, parce que ben, d'abord, les artistes sont morts, beaucoup sont morts, les penseurs, l'économie est ruinée, ils sont tous flippé et déprimé aussi par l'horreur de ce qui arrive. Et donc, si vous voulez, il y a une re-renaissance, si vous voulez, vers le milieu du XVe siècle, un nouveau réveil de ces espèces de pensées, cette volonté de comprendre le monde, d'intégrer toutes les traditions culturelles et intellectuelles, y compris de comprendre sa place sur Terre, qui commence à se constituer, à se reconstituer, finalement, assez rapidement, après un traumatisme aussi gigantesque que la peste noire. Et par exemple, alors Frangelico ne sera pas le seul, mais autour de Frangelico. Alors, Frangelico est un moine, c'est même le chef du couvent. Et le couvent San Marco, alors ce qui est extraordinaire, c'est que ça n'a pas changé. Vous y allez, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'on est en quelle année? Ça fait 500 ans plus même. Presque bientôt 600 ans. 550 ans plus tard, vous y rentrez, c'est pareil, ça n'a pas bougé. Donc il y a une préservation extraordinaire des lieux, donc c'est un vrai voyage dans le temps. Et alors, vous avez aussi quelque chose qui est extraordinaire, ben c'est que ce moine peintre, ben il peint sur les murs, là, je détaille, mais il peint pour ses moines. Donc il peint pour ses moines, il va peindre sur les murs, et c'est quelqu'un qui est cultivé, lettré, qui connaît bien les textes, etc. Et qui, alors, je ne sais plus comment il a appris la peinture, quand il était jeune, etc. Toujours est-il que quand vous vous baladez dans le couvent qui est devenu un musée, ben vous tombez face à face. Alors évidemment, il y a un musée aussi, mais vous avez aussi une peinture, par exemple, celle-ci, une des Annonciations, qui est peinte en fresque ici. Vous avez, alors là, j'ai agrandi, mais c'est dans l'escalier, et dans chaque cellule de chaque moine, vous avez une peinture. Une peinture différente, où Frangelico a toujours peint de façon très subtile, très intelligente, et on va voir justement minimaliste, de ce point de vue-là aussi avec. On va voir qu'avec Angelico, il y a un art du vide qui est remarquable, et on va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, je vous présente un petit peu le couvent. Les cellules sont très sobres, et notamment, on verra là encore une autre annonciation, que l'on verra tout à l'heure, et vous avez à chaque fois, avec Angelico, là je vous parlais du lieu, un jeu avec le lieu qui est assez remarquable, que ce soit dans les formes, dans les fonds, dans l'architecture, dans la présence, y compris avec la fenêtre, et je vous ai souvent dit que la peinture c'était à la fois mur et fenêtre, pour les vitraux, là on voit bien, c'est mur et fenêtre à la fois, c'est les deux. Donc on est aussi, on voit que c'est des gens qui savent très bien ce qu'ils font, y compris sur des choses toutes bêtes, mais revenez là-dessus. Est-ce que le mur du fond de la peinture est peint ou pour imiter le mur d'à côté, ou est-ce qu'il a laissé vide le vrai enduit? Oui, est-ce qu'il a peint du faux enduit sur le vrai enduit, pour faire croire que c'était le vrai enduit? Donc là même, on peut se poser la question. C'est d'une subtilité terrible, parce que si on zoome vraiment au milieu, on se retrouve devant un mur qui représente le mur sur lequel est peint la peinture. Donc, si vous voulez, il y a une sorte de mise en abîme réelle, qui est très intelligente chez Angelico, et on y reviendra. Alors, là, vous avez d'autres scènes. Alors, chaque moine a le droit à sa scène, quelque part. Hein, et là, on retrouve Noli Metangere, une autre scène. Je vous reparlerai tout à l'heure. Et donc, alors, je ne vais pas vous montrer toutes, mais il y en a presque une vingtaine. Hein, une vingtaine qui sont peintes comme ça et qui sont en état alors, parfait. Parce qu'y compris, là, c'est une fresque protégée. Hein, où il n'y a pas trop de lumière, pas trop de visiteurs. Pendant longtemps, c'est resté un couvent. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de papier. Alors, maintenant, c'est ouvert. Mais c'est vraiment un lieu, alors tranquille, il n'y a pas grand monde qui va. Hein, si vous voulez être tranquille, alors là, c'est extraordinaire. Il y a plein d'endroits. Comment ?
Il ne faut pas le dire autour de soi.
Voilà. Donc, si vous voulez, il y a comme ça des lieux remarquables. Alors, pourquoi j'ai choisi la question de l'annonciation particulièrement ? Bah, d'abord, on la voit au moins deux fois dans le couvent San Marco. C'est parce que l'annonciation pour Angelico, juste une chose. Si vous avez vu l'expo David Hockney, qui est à Beaubourg actuellement, ou qui était fini, David Hockney fait aussi référence à cette annonciation de Frangelico. C'est-à-dire que David Hockney, qui est un des artistes les plus intelligents du XXe siècle, au niveau de l'espace, de la peinture, etc., a très bien compris qu'il y avait des enjeux extraordinaires, justement, de présence d'espace et de représentation. Et ça, c'est une de ses peintures, faite en 2017, hein, donc c'est une peinture actuelle, et qui fait clairement référence, d'ailleurs, aux annonciations, évidemment, de Angelico, à celle-ci notamment. Alors, pourquoi est-ce que je vous présente les annonciations d'Angelico ? Parce qu'il en a fait plusieurs.
Il y a des toiles aussi.
Comment ?
Des toiles au Prado.
Bien sûr. Je crois que c'est celle-ci, d'ailleurs. Attendez, celle du Prado, c'est... Ou alors c'est... Oui, il a fait des fresques et des peintures en toile. Hein. Je crois que c'est celle-ci qui est au Prado. Celle-ci du Prado. Alors justement, je vais vous les montrer toutes parce qu'elles sont assez remarquables, et notamment pour quelque chose qui est justement, on a abordé tout à l'heure, c'est la question de la perspective. La question de la perspective, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Et à quoi ça sert ? Et ça, c'est quelque chose qui sera peut-être la première fois pensé de façon très très claire par Frangelico. Et c'est pas un hasard, c'est pour ça que j'ai choisi, si c'est autour du sujet de l'annonciation. Et là... Tout est dit, mais je vais quand même préciser. On a vu jusqu'à présent avec Giotto, avec les autres peintres, que l'espace représenté, c'est un espace, ce qu'on appelait la perspective empirique, ou naturelle. C'est en gros, ben, il voit bien qu'il y a du volume, il y a du relief, tout le monde le voit, c'est pas compliqué, que si c'est loin, c'est un peu petit, mais ce qu'on appelle la perspective empirique ou naturelle. Parce que perspective, c'est-à-dire voir au loin, etc. En allemand, durchsehen, c'est-à-dire voir à travers, etc. Certains Florentins, notamment le grand penseur Alberti, qui est lui architecte, on verra plus tard quand on verra l'architecture d'Alberti, qui est Florentin, lui aussi, commence à raisonner sur la vision et à trouver des lois de la vision, des lois de l'optique, et autour de la question de la perspective. La perspective, et il fait des traités de perspective en prouvant qu'il y a ce qu'on appelle un point de fuite, un point central vers lequel convergent tous les rayons optiques, hein, et c'est vérifiable facilement, et on verra les expériences qui sont faites d'ailleurs à Florence, devant le baptistère de Florence, avec Brunelleschi, etc., des gens qui vont effectivement vérifier que leur dessin en perspective coïncide vraiment avec ce qu'ils ont sous les yeux. Je vous l'ai montré ça déjà ou pas ? Non ? Ah ben attendez. Je vous montrerai ça. Toujours est-il que c'est à Florence, c'est sur la place de la Piazza Duomo de Florence que ces expériences vont être faites. C'est-à-dire que la question de la perspective, elle est théorisée, construite, pensée, écrite à Florence, exactement à la même époque. C'est-à-dire que vous avez là des gens, au début, c'est pour des raisons optiques, c'est une sorte de recherche comme ça, presque scientifique, sur. Ils vont appeler ça d'ailleurs la perspective scientifique ou artificielle. Parce qu'elle est construite, elle est scientifique. Elle est mathématique. Et donc, vous avez tout d'un coup, là, l'introduction aussi du savoir et de la raison. La raison participe de la représentation. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles l'art va devenir, la peinture va devenir un art libéral, parce qu'elle va s'appuyer sur la science optique. Alors, c'est une chose de s'appuyer sur la science optique, mais si c'était pour ne rien dire de spécial, ça n'a aucun intérêt. C'est ce qui fera dire à certains, la perspective, c'est bon pour les décorateurs. Certains vont dire la perspective, par exemple, de Uccello, ils vont dire, mais Uccello, contemporain de Piero et Frangelico, vont dire, mais qu'est-ce qui fait la perspective, c'est bon pour les décorateurs. Parce que c'est des illusions d'optique. Tandis que quelqu'un comme Frangelico va justement montrer que la perspective, elle peut prendre du sens. Et j'en arrive à mon propos. Justement, ici, vous avez deux lieux dans l'Annonciation. L'Annonciation, vous connaissez la scène, je vais quand même pas, même ceux qui ne sont pas, baignés dans la religion catholique, comme Martine, vous avez donc Gabriel, qui est ici en train d'annoncer à Marie qu'elle est enceinte de Dieu. Hein, elle est surprise, mais elle n'est pas effrayée, alors on verra plus tard les différentes solutions. Et là, vous avez en fait aussi au fond, vous avez une autre scène. C'est toujours le même Gabriel, mais chassant Adam et Ève du paradis. Donc ici, vous avez deux scènes. Une au loin, dans le passé en fait. C'est intéressant, c'est qu'elle est plus petite, elle est plus au loin, elle est lointaine. Et ils sont dans la nuit, ils sont dans une nature brute, on va dire. Et c'est début de création, Adam et Ève, le début d'une sorte de souffrance, un dieu déçu par les humains, et qui leur dit, bah, débrouillez-vous, et puis travaillez, etc., et essayez de faire ce que vous pouvez, mais tant pis pour vous, je caricature un peu. Et souffrez. Et puis vous avez, cette fois-ci, le dieu, plusieurs siècles après, qui décide d'ailleurs, bon, c'est bon, je vais quand même revenir un peu, mettre de l'ordre là-dedans, je vais arriver sur Terre, dans un lieu précis, à un moment précis, et je vais remettre de l'ordre. On va simplifier, etc. C'est la question chrétienne. Donc vous avez un dieu qui va venir sur Terre, remettre de l'ordre, et ordonner tout cela. Et c'est pour ça que vous avez ici, d'ailleurs, Marie dans une architecture, dans quelque chose qui est ici, et si vous regardez bien, il y a un jardin, c'est-à-dire que là vous avez une nature brute, et là vous avez une barrière avec un jardin. Et là, on est aussi dans une architecture, c'est un monde construit. Cette fois-ci, on n'est plus dans le désordre, la nature brute, on est dans un monde construit. Donc cette fois-ci, il s'agit effectivement de l'architecture, et ça, c'est pas moi qui l'invente, on a ça dans les textes italiens de l'époque, hein. Quelqu'un comme Pic de la Mirandole, encore un Florentin, il écrit très clairement que l'architecture, le temple, etc., c'est un lieu construit d'abord qui vient des idées, qui construit, qui prend des matériaux bruts, mais qui les ordonne selon des principes mathématiques pour diriger les humains vers l'esprit. C'est-à-dire que l'architecture, c'est vraiment une œuvre de l'esprit pur. Donc c'est une construction qui permet aussi d'ordonner le monde. On n'est plus dans des grottes, dans des cabanes, etc., on est dans une construction qui ensuite est une projection de l'esprit. L'architecture, c'est pour ça que ça aura une importance fondamentale, on verra ça avec Alberti et plus tard dans un des cours suivants. L'architecture, ce n'est pas juste des maisons, c'est aussi, pour les humains de la Renaissance, une projection mentale. C'est peut-être d'ailleurs le seul art qui soit une pure projection mentale. L'architecture n'imite rien. Alors que la peinture, elle imite, la musique, elle imite des sons, tout ce qu'on veut. Tandis que l'architecture, elle n'imite rien. Elle part pure de vision, purement mathématique et géométrique. Et tout d'un coup, elle devient réalité. Donc l'architecture, c'est un art vraiment aussi inspiré au sens strict, y compris par des raisons importantes. Ce qui fait qu'on a, dans la peinture, l'architecture, cette fois-ci, devient pas uniquement un fait de décor comme chez Giotto, mais devient une mise en ordre des lieux. Alors, je passe aussi sur le cadre qui est lui-même architecturé, et cette fois-ci, vous avez un effet de perspective que l'on voit ici avec du lointain. Alors, je continue, puis de toute façon, on va revenir. Là, vous avez, ça c'est toujours la même, mais c'est pour vous montrer. Là, vous avez une autre. Alors, effectivement, là, vous avez toujours Adam et Ève. C'est un peu moins violent, mais vous avez, ils sont quand même dans une sorte de nature luxuriante. Et puis, au premier plan, on commence à voir un jardin. Vous avez ici toujours Gabriel, Marie, une lumière un peu plus douce, une voûte étoilée. Vous avez cette fois-ci Dieu le Père ici, et ici, vous avez le Saint-Esprit sous la forme de la colombe qui arrive, et la lumière qui arrive du soleil, le Dieu assis au soleil, le Dieu primitif qui veut dire vient du soleil de la nature, et le Dieu nouveau qui va cette fois-ci arriver, revenir sur Terre, il est dans l'architecture, sur un médaillon, et là vous avez un truc en trois parties très très clair. Alors je reviendrai tout à l'heure sur les points de fuite et la perspective. Là c'est la même peinture, mais j'ai fait à chaque fois des choses différentes. Là vous avez cette fois-ci une nouvelle peinture de Frangelico, mais on verra aussi tout à l'heure, dans laquelle on va retrouver les mêmes. Alors, on trouve toujours Adam et Ève, la barrière, le jardin, et Gabriel qui arrive, Marie qui est ici, avec plus d'ombre et de lumière, toujours Dieu le Père ici, le Saint-Esprit cette fois-ci au-dessus de la tête de Marie. Puis vous avez cette annonciation qui est au couvent Saint-Marco, qui est une fresque. Alors cette fois-ci, on ne voit plus Adam et Ève, mais on voit le bazar, on voit l'espèce de forêt vierge au loin. On voit la balustrade, la palissade qui sépare l'Ancien Testament du Nouveau Testament. Et on voit effectivement cette fois-ci toujours Gabriel, Marie sur un banc. Alors comme c'est fait en fresque, c'est un peu plus simple. Et là, vous avez ici cette dernière. Cette fois-ci, alors là, il n'y a presque plus rien. Vous avez juste Gabriel, Marie, les arcades, etc. Et juste une chose, vous avez ici un témoin. C'est Saint-Pierre Martyr, c'est un des fondateurs de l'ordre des Dominicains. Juste une chose, le moine qui est dans sa cellule, lui il est bien mortel, il est vivant. Il voit un des fondateurs de son ordre à lui, qui est témoin de la scène, mais qui a l'air d'être dans la peinture. Donc il est plus témoin que lui, il est déjà dans la peinture. Et dans cette scène, vous avez Marie qui est mortelle, vous avez l'ange qui est, etc. Et vous avez le Dieu qui n'est pas encore arrivé sur terre, mais qui est là. Donc vous avez une sorte de gradation en spirale, depuis que le moine qui est dans sa cellule, qui voit le moine qui est un mortel, un personnage, une sorte de saint, un peu inférieur, qui lui est à l'extérieur du bâtiment, mais voit la scène mieux que le vrai moine. Et dans cette scène-là, vous avez une gradation du mortel au divin, très, très clairement. Donc vous avez un ordonnance comme ça, en spirale, un petit peu de la hiérarchie, hein, de la hiérarchie et de l'espace. Alors, maintenant, si on regarde les points de fuite, parce qu'à chaque fois, et c'est là où Fra Angelico est un scientifique, c'est d'abord un peintre, alors, au niveau des couleurs, anatomie, maîtrise d'une très grande délicatesse. Michel-Ange dira, il a dû visiter le paradis pour en ramener des couleurs aussi divines. Hein, c'est pour ça qu'on l'appelle Angelico, il s'appelle Pietro, Guido di Pietro, son vrai nom. Mais on dit Angelico parce qu'il y a une sorte de légèreté. À la fois les corps sont en volume, mais ils semblent ne pas peser. C'est vraiment un mystique. Lui, il croit vraiment à ça et on va voir l'enjeu. Alors, ici, le point de fuite, très très clair, c'est moi qui ai fait ça. Vous avez, le point de fuite est très clairement là. Il vient du loin. Il vient de loin, c'est l'origine, peut-être la Bible, l'Ancien Testament. Ici, le point de fuite est cette fois-ci au milieu. Et au milieu du cercle, cette fois-ci, c'est quelque chose qui ordonne. À gauche, à droite, etc. C'est une figure centrale, mais il n'est jamais innocent. Cette fois-ci, dans les œuvres, dans les annonciations de Angelico, il essaie toujours de chercher un sens au point de fuite. Soit il est du côté de l'origine, hein, l'Ancien Testament. Là, il est peut-être dans un moment de bascule qui va faire le lien entre le passé et le futur, parce qu'il s'agissait bien de ça dans l'Annonciation. Vous avez le passé de l'humanité et le futur de l'humanité. Et là, vous avez donc un moment de passage. Et l'ange, c'est celui qui amène le passage. Et le point de fuite est à la fois dans le cercle ici et dans un bâtiment construit. Puis vous avez ici, encore plus clair cette fois-ci, le point de fuite, cette fois-ci, il ordonne très clairement. Alors là, l'Ancien Testament est relégué au loin, on en parle quasiment même plus. Et vous avez cette fois-ci, il est entre les deux. Il est entre les deux, sous Dieu, hein, et au niveau du regard, exactement du regard de l'ange et de Marie. Or, le point de fuite, vous savez, il est au niveau du regard, des yeux, puisque c'est sur l'horizon. Et on continue, parce qu'on voit bien que... les cercles, c'est pour... Parce que les cercles, dans la vieille tradition, depuis l'art roman, le cercle, c'est quand même la voûte céleste, l'unité, le divin, etc. Et le carré, c'est le monde construit, etc. Et donc l'articulation du cercle et du carré, c'est toujours la quadrature du cercle, la complexité des relations entre eux, que l'on trouve toujours avec cette idée du chapiteau, etc. Donc le cercle, normalement, c'est un monde parfait, parce que c'est peut-être la figure géométrique que l'on trouve à l'état presque naturel, pur. On ne va pas trouver de carré, ni de triangle équilatéraux, ni de pentagone. Avec le cercle, on jette un caillou dans l'eau, c'est un cercle, on voit la lune, on voit le soleil, on voit les yeux, on coupe une branche, une tige, on a des cercles. Donc c'est une sorte de figure parfaite. Et le reste, c'est de la construction. C'est plus artificiel, donc ça évoque plus l'humain. Tandis que le cercle, c'est une sorte de donnée. Et puis ça évoque le rayonnement, et c'est aussi défini par un seul point. Donc c'est l'unité. Et déjà dans le carré, il y a une dualité verticale-horizontale, le triangle, triangulation. Le triangle, c'est aussi le lien, figure de lien. Et puis vous avez ici celle-ci qui devient beaucoup plus subtile, parce que tout d'un coup, cette fois-ci, le point de fuite, il est dans la fenêtre. Il est au milieu de la fenêtre. C'est-à-dire que quelque part, il va se passer quelque chose là-bas, au loin. Et il est entre toujours Gabriel et Marie. Mais en fait, et c'est là où ça va devenir absolument géant chez lui, c'est là. Où tout d'un coup, pum, le point de fuite, il est en suspension. On ne voit plus. On sait à peine où il est sur le blanc du mur. Et c'est là où Frangelico est absolument génial. C'est qu'en fait, si le point de fuite, c'est ce qui permet d'ordonner la Terre, de construire quelque chose, de faire le lien entre le céleste et le terrestre, puisque le point de fuite, il est sur la ligne d'horizon, il est le lien entre le ciel et la Terre, il est le lien entre le proche et le lointain, il est en même temps quelque chose qui apparaît mais qu'on ne rattrapera jamais, puisque, comme l'horizon, et donc il va assimiler de manière très claire, pour Frangelico, point de fuite, c'est Jésus. Le point de fuite, c'est Jésus, et effectivement, parce qu'il permet d'ordonner, on sort du bazar et de la forêt vierge, on va permettre de construire, d'ordonner avec des principes simples la terre, de la ranger, on peut permettre de construire au sens strict figuré un édifice, une église, un temple, on peut la construire et la représenter, et ça permet aussi de passer du proche au lointain, du prosaïque jusqu'au ciel, et en même temps, on n'a jamais la prétention de la rattraper, comme Jésus, qui lui aussi va disparaître et monter au ciel. Et bien alors, que vient faire Marie là-dedans? Marie, c'est encore plus génial, Marie, elle est comme l'horizon. Marie, c'est l'horizon, et Jésus, c'est le point de fuite. C'est-à-dire que Marie, c'est aussi la seule mortelle qui va monter au ciel. Donc, elle est sur terre, mais en même temps, on ne peut jamais l'attraper, parce qu'elle ne sera plus sur terre. Et Frangelico, c'est le premier qui réussit à donner une vision, une force symbolique à la perspective. Mais symbolique très claire. C'est-à-dire que pour lui, c'est parfaitement compatible avec le christianisme. Comme Platon et Aristote sont compatibles avec le christianisme, mais là vous avez une science optique et il réussit à lui donner un sens très clair. Alors pourquoi ici le point de fuite il est en suspension? Parce qu'il n'est pas encore né. Puisque c'est l'annonciation, donc il flotte. Donc il ne peut pas ordonner encore l'espace, on est dans une sorte de vide. Et c'est là où le vide devient quelque chose de très important chez Frangelico, c'est justement ça. C'est que le vide, ben, c'est quelque chose qui est en suspension, mais c'est une promesse. C'est, alors, il y a déjà des choses qui sont ordonnées, mais pas comme ça, puisque le Jésus n'est pas encore là. Donc, si vous voulez, vous avez ici, chez Frangelico, la recherche, on voit bien, il cherche, il sent bien qu'il peut faire du sens avec son point de fuite, et avec sa perspective. Et il termine avec cette œuvre absolument géniale, et qui lui permet justement d'avoir du vide. Parce que justement, il y a cette idée de la promesse, cette idée de la suspension, cette idée d'un devenir, etc. Et là, justement, on ne sait plus où on est. Est-ce qu'on est sur le mur? Est-ce qu'on est dans le vide? Est-ce qu'on est dans le lointain? Il est déjà là sans être là. Et il est pile entre eux et dans une structure géométrique absolument parfaite. Alors là,
il y a une chronologie ?
Quasiment, oui. J'ai un peu forcé. J'ai un peu forcé, mais je crois que oui. Alors, je reviendrai sur David Hockney. J'y suis. David Hockney fait un truc génial. C'est que lui, cette fois-ci, il nous permet, en coupant sa toile, il nous permet d'avoir l'impression qu'on va tourner à gauche, qu'on va tourner à droite, qu'on va rentrer, qu'on va tourner aussi autour du cloître. Quelque part, nous aussi, on va être témoins. Donc là, il joue aussi sur qu'est-ce qu'on voit, où est-ce qu'on est, qui voit quoi, etc. Et là, il nous donne l'envie de tourner autour de l'œuvre de façon très subtile, en reprenant la peinture de Frangelico, c'est-à-dire, effectivement, on est témoin d'une scène inaugurale, puisque à partir de laquelle l'espace, on va enfin pouvoir reconstruire un espace. Un espace qui prendra du sens. Et vous avez cette idée de fractionnement de l'espace qui est remarquablement claire chez Angelico. Alors, pour vous montrer d'autres choses chez Angelico, ce qui est assez drôle, c'est que quand Angelico fait aussi, par exemple, le jugement dernier, ici, ça c'est le jugement dernier, donc vous avez les tombeaux qui s'ouvrent, etc., les damnés, les élus, bon, tout. Et vous avez donc le Dieu ressuscité au-dessus, vous avez Marie qui est au ciel, Jean, enfin tout ça c'est au ciel. Mais si vous regardez le point de fuite, si je prolonge les lignes de fuite ici, le point de fuite cette fois-ci il est dans le vide. Mais c'est normal, au jugement dernier il n'y a plus la terre, c'est fini. Donc on n'a plus besoin d'ordonner la terre, c'est terminé. Parce que le point de fuite, là aussi il retourne dans le vide. Donc il était dans le vide avant l'arrivée de Jésus, parce qu'il flottait un peu. Et là, il est dans le vide au niveau du jugement dernier, parce qu'il n'y a plus. C'est fini, la terre on n'en parle plus. Donc, si vous voulez, il n'y a plus, on la quitte tous. Certains vont en dessous, certains vont au-dessus. Mais donc, le point de fuite, alors qu'il sait parfaitement à quoi ça peut servir, il sait très bien que c'est sur la ligne d'horizon, mais la Terre, elle est aussi limitée. C'est un lieu de passage provisoire des créatures divines où à un moment, il faudra la quitter ou retourner tous au paradis, etc. Et là encore, vous avez l'importance du cercle. Vous avez vu ici, vous avez trois cercles. Ici, vous avez ce cercle. Ici, avec le paradis, alors cette fois-ci, il y a du monde. Vous avez ici les personnages un peu secondaires, mais qui sont aussi dans des cercles ici croisés, et vous avez les humains qui sont dans un rectangle, hein, dans des formes carrées et ordonnées. Donc vous voyez, là, on est encore avec Frangelico dans une structure et une perspective très, très subtile. Alors, la prochaine fois, je vous montrerai que autour de Frangelico, on va regarder plein d'annonciations, parce que c'est un thème très intéressant, et on abordera aussi la question du masculin et du féminin, parce que derrière ça, il y a aussi un enjeu du rapport homme-femme, et on regardera la question de la perspective. Et puis, je vous montrerai aussi quelques cloîtres, parce que quelques cloîtres florentins qui sont ici. Voilà, les cloîtres florentins qui sont assez intéressants pour vous montrer aussi le succès ou l'importance que ça peut avoir, ce genre de choses. Donc c'est la semaine prochaine, c'est ça?
Oui.
Voilà.
C'est pas les vacances, hein?
Non, non.
C'est fini les vacances, momentanément.